Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Dans un instant, la suite des débats d'Europe Soir, mais d'abord, c'est le journal. Bonsoir Alexandre Lemaire.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h. Très bon début de soirée à tous. Et dans ce journal, nous entendrons le récit glaçant des policiers qui sont intervenus au Bataclan le soir des attentats du 13 novembre 2015.
Des collégiens harcelés simplement pour avoir le tort d'être nés en 2010. Le phénomène prend de l'ampleur. Les parents d'élèves et Jean-Michel Blanquer donnent l'alerte. Explication à suivre.
40 ans au compteur et le TGV redémarre de plus belle. Emmanuel Macron promet des investissements massifs et de nouvelles lignes à grande vitesse.
Deux bonnes nouvelles face au Covid. 50 millions de Français primo-vaccinés et l'épidémie qui recule. Mais le relâchement qui s'installe s'inquiète Santé publique France.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, la France littéralement coupée en deux en ce samedi à la verticale. Belle journée sur la façade est de la France, pluvieux localement orageux à l'ouest et mitigé au centre.
Météo complète en fin de journal. Et d'abord donc le récit terrifiant des policiers qui sont entrés au Bataclan le soir des attentats.
À la barre, un enquêteur de la brigade criminelle évoque une scène de guerre. Devant la scène du Bataclan, 90 personnes ont été tuées par balle. Pour saisir l'horreur de cette soirée, un enregistrement audio du début de la tuerie a été diffusé. Gladys Lafitte.
Oui, 22 secondes qui durent une éternité, mais c'est nécessaire pour montrer le côté brusque et la barbarie de l'instant, dit l'enquêteur après une longue inspiration, comme pour se donner du courage. La bande démarre, le groupe Eagles of Death Metal joue un morceau et très vite, des tirs en rafale, forts, nourris, et puis les cris de terreur, des guitares qui déraillent. Des parties civiles s'effondrent, d'autres se bouchent les oreilles. Une fois terminé, c'est la voix du policier qui prend la relève, qui se glisse, je cite, dans la voix des terroristes, retranscrite à partir de cet audio qui dure en réalité 2h, 38 minutes et 47 secondes. « Couche-toi ou je tire, lève-toi ou je te tue », joue l'enquêteur comme au théâtre. « Vous vous en prendrez à votre gouvernement, l'heure de la vengeance a sonné. » 258 coups de feu sont enregistrés dans les 32 premières minutes, 52 depuis le balcon, près du dictaphone, en direction de la fosse. « Nous avons eu 90 morts, mais ce bilan catastrophique aurait pu être bien pire », conclut l'enquêteur, la gorge nouée.
Gladys, vous suivez le procès des attentats du 13 novembre pour Europe 1. Vous avez rencontré Sébastien, un rescapé du Bataclan. Sébastien se trouvait dans la fosse au moment de l'attaque. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il venait à l'audience.
Je me suis revu pendant ces secondes-là. Surtout ce passage entre le moment où on ne sait pas trop ce que c'est, ces bruits-là, et puis là où on réalise que c'est digne des pires cauchemars, des pires films qu'on a vus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, quoi? Le plus dur, ça a été de sortir de là-bas. Et une fois qu'on est vivant, on ne peut pas dire que ce soit dur d'assister à une reconstitution. Au contraire, c'est un travail de mémoire. Et c'est à ça que sert le procès.
Sébastien rescapé de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan à Paris.
19h03, l'appel à la vigilance de Jean-Michel Blanquer contre le harcèlement des élèves nés en 2010.
Le ministre de l'Éducation appelle les chefs d'établissement à la vigilance car depuis plusieurs semaines, les élèves nés en 2010 sont harcelés sur la seule base de leur année de naissance. Tout est parti du jeu vidéo Fortnite où les nouveaux joueurs ne sont pas les bienvenus. Une vague de haine sur les réseaux et maintenant des moqueries dans les cours d'école, Thibaut Hu.
Ouais, les violences qu'on a pu voir sur TikTok arrivent dans la cour de récréation, mais les tensions sont surtout dues à de la différence d'âge. Écoutez ces élèves de 5e qui sortaient du collège.
J'ai pas trop envie de leur parler parce qu'il y a certains 2010 qui font un peu trop les malins. Ils sont impolis, ils font les fous juste parce qu'ils sont rentrés au collège.
Quelqu'un dit « Ah, les 2010, ils sont nuls, c'est pas comme notre génération. » Alors que bah, là, ça évolue, ils vont pas tous jouer au même jeu qu'on jouait il y a 10 ans, c'est normal.
Alors ça peut paraître anodin pour ces jeunes, mais ça devient parfois du harcèlement avec des élèves victimes de remarques et de rejets. C'est ce que raconte cette maman d'un petit garçon qui a fait sa rentrée au collège.
Des petites vannes blessantes, c'est jamais très bienveillant, c'est un peu désobligeant. C'est « Ah, t'es de 2010, donc c'est au sport, c'est à l'arrêt de bus en bas du collège. Ah, toi, t'es en 2010, t'es bien pourri. » Enfin, le premier truc qu'on lui demande, c'est quelle année tu es. Mais du coup, ça le travaille. C'est vrai qu'on en parle quasiment tous les jours, quoi.
Pour Nagaté Bellassène, présidente de la Fédération des conseils des parents d'élèves, les parents doivent redoubler d'attention avec leurs jeunes.
Il faut discuter avec son enfant, il faut l'apaiser aussi, parce qu'on a aussi beaucoup d'enfants de sixième qui sont en fait des enfants qui sortent, il ne faut pas l'oublier, hein, de primaire, où le cadre est encore différent. Donc c'est vraiment une année charnière, c'est un climat anxiogène qui s'est installé. Et du coup, on a pas mal de remontées d'élèves qui ont peur d'aller au collège.
Face à l'indignation, la plateforme TikTok a fini par réagir.
Ah oui, vous parliez de TikTok, Thibault. Ce réseau social assure en effet avoir effacé tous les hashtags ou mots dièses qui visent à harceler les élèves de 6e nés en 2010.
Pour les 40 ans du TGV, Emmanuel Macron annonce des investissements massifs pour développer la grande vitesse.
3 milliards de passagers transportés, 3000 km de lignes, et ce n'est pas terminé. On va construire plus de lignes, promet le chef de l'État dans le hall de la gare de Lyon à Paris, là où tout a commencé pour le TGV. Aurélien Fleureau, le chantier du TGV est donc relancé.
Oui, après un début de quinquennat marqué par la réforme pour un nouveau pacte ferroviaire qui devait notamment donner la priorité aux petites lignes, après avoir repris 35 milliards d'euros de dette du groupe SNCF, le temps des investissements sur la grande vitesse est effectivement revenu. Et si Emmanuel Macron a tenu à être présent pour lancer les célébrations autour des 40 ans du TGV, c'est bien pour rappeler que l'État misait énormément sur le développement du train.
Cette histoire, cette passion française pour le train, nous allons la poursuivre. Et nous allons la poursuivre en grand. Le Premier ministre a annoncé les 6,5 milliards d'euros qui seront investis pour la réalisation des lignes à grande vitesse Marseille-Nice, Montpellier-Perpignan, Bordeaux-Toulouse. Nous continuerons donc cette formidable aventure par de l'innovation industrielle et par des choix d'investissement en infrastructure qui vont permettre à l'entreprise de continuer à déployer son projet.
Le chef de l'État qui a terminé son discours par un « Vive la SNCF » et qui a pu découvrir ce matin le TGV du futur, en tout cas une maquette grandeur nature, 8 mètres de ce TGV-M, au nez fuselé, aérodynamique, tout blanc, un train économe en énergie fabriqué en France par Alstom, qui a d'ailleurs annoncé une augmentation de sa cadence de production. Cela passera de 9 à 12 rames par an.
Merci Aurélien. Ces premiers TGV de nouvelle génération doivent être livrés en juin 2024, autrement dit un mois tout juste avant les Jeux Olympiques à Paris.
C'est une bonne nouvelle, la décrue se poursuit sur le front du Covid. Il est donc urgent d'attendre avant de se relâcher.
Ce n'est surtout pas le moment car les efforts commencent à payer. Pour la première fois depuis juillet, on repasse à moins de 100 cas pour 100 000 habitants. C'est donc une excellente raison pour croire que oui, les restrictions pourront bientôt être allégées. Mais attention, disent les épidémiologistes, la vaccination à elle seule ne suffit pas contre le variant Delta. Or, les Français sont tentés par le relâchement, Élise Dangean.
Et oui, c'est ce que note Santé publique France dans son dernier point épidémiologique. Le respect des gestes barrières se tarit. Moins de lavage de mains, plus de regroupements et plus d'embrassades. Phénomène accentué chez les personnes vaccinées. L'isolement, lui, est moins bien respecté par les non-symptomatiques. Et c'est bien dommage, ça n'est pas du tout le moment de lâcher du lest alors que la diminution de l'épidémie se poursuit pour la quatrième semaine consécutive. Le nombre de cas diagnostiqués par jour a baissé de 28% par rapport à la semaine dernière. Même dans les régions les plus touchées par la crise, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Île-de-France et Occitanie, ça baisse. Idem en Martinique et en Guadeloupe. Sur tout le territoire, les admissions à l'hôpital diminuent de 17%. Conclusion, il faut s'accrocher, dit Santé publique France, et ne pas baisser la garde sur les gestes barrières.
Élise Dangean, alors que la campagne de vaccination franchit un nouveau cap, Emmanuel Macron a tweeté il y a quelques minutes que la barre des 50 millions de Français primo-vaccinés vient d'être franchi.
19h10, la suite du journal avec Alexandre Lemaire. Éric Zemmour lance la promotion de son livre à Toulon avec une séance dédicace grand format.
Et ce n'est pas une librairie de quartier, mais le Palais des Congrès de Toulon qui offre à Éric Zemmour son premier auditoire. L'écrivain n'est pas encore candidat à la présidentielle. Entre deux eaux, comme le format de ce rendez-vous, Stéphane Burgat. Vous êtes sur place, Stéphane, c'est en quelque sorte un meeting dédicace ?
C'est ça, voilà, un flou hein, qu'on entretient toujours. Il y aura donc une intervention dans cette manifestation littéraire d'une minute à l'autre, hein, manifestation qui s'appelle les Entretiens de l'été. Le programme est le suivant. Une heure d'interview pour commencer par l'organisateur du festival sur la scène du Palais des Congrès. Deux chaises, une table, un décor minimaliste. Va suivre eh bien, une demi-heure de questions-réponses avec le public et puis enfin deux heures de rencontres dédicaces avec les lecteurs. Alors, meeting politique ou rencontre littéraire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Non plus du côté des spectateurs comme Michel.
Les deux, une rencontre littéraire et puis avoir de bonnes idées politiques. On le suit régulièrement depuis des années et on partage la plupart de ses idées, donc c'est intéressant de le voir en direct. Ah, je pense que c'est quelqu'un que beaucoup de Français aimeraient voir se prononcer parce qu'il ose dire ce que beaucoup de gens n'osent pas dire et qu'il a une sincérité qui est assez inhabituelle dans le monde politique.
vous aimeriez qu'il se présente, pourquoi pas ce soir, dès ce soir?
Ah, pourquoi pas ce soir, éventuellement, oui, s'il l'annonce ou s'il décide de l'être, en tout cas, pour moi, ce serait une bonne chose.
Éric Zemmour qui est attendu d'une minute à l'autre ici. 800 personnes sont attendues ce soir pour assister donc à cette interview. À noter également que le polémiste suivra ce qui reste officiellement une tournée promotionnelle pour son livre demain à Nice.
Merci Stéphane Burgat en direct de Toulon. La courbe actuelle du réchauffement climatique nous mène à la catastrophe, s'alarme le secrétaire général des Nations Unies. Les engagements des États signataires de l'accord de Paris risquent de nous conduire à un réchauffement de plus 2,7 degrés, c'est-à-dire bien au au-delà de l'objectif d'1,5 degré recherché. Le gouvernement promet un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Les entreprises seront aidées pour former des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an à Pôle emploi. Ce plan sera lancé dès la fin du mois. L'objectif, Emmanuel Dutheil, c'est de tenter de répondre au manque de main-d'œuvre.
Oui, un des problèmes souvent mis en avant pour expliquer le manque de manœuvre, c'est le manque de formation des demandeurs d'emploi. L'État investit beaucoup dans ce secteur avec peu de résultats. Il faut donc changer de méthode, plaide la CPME qui a poussé une idée toute simple. Former réellement en fonction des besoins, le gouvernement va donc amplifier un dispositif qui existe mais qui est peu utilisé. C'est ce que l'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Les demandeurs d'emploi sont directement formés à un métier dans l'entreprise. L'État appelle à formation et ce dispositif fonctionne selon Jean-Eudes Duménil, le numéro 2 de la CPME.
Ça fonctionne dans plus de 80% des cas, donc c'est quelque chose qui marche très bien. C'est un peu du coût humain, on fait de la dentelle. C'est pour ça que c'est compliqué et que ça coûte cher. Mais franchement, c'est quelque chose que les employeurs plébiscitent parce que ça répond à leurs besoins. Et le besoin de main-d'œuvre aujourd'hui, il est très important.
Dans le même sens, le gouvernement demande à Pôle emploi de lister d'ici à la fin octobre toutes les bonnes pratiques locales qui pourraient être dupliquées. Et pour y arriver, les moyens déployés chez Pôle emploi pendant la crise sont maintenus.
Emmanuel Dutheil.
On passe au sport et le derby de l'Est est ce soir sur Europe 1, Strasbourg face à Metz.
Sixième journée de Ligue 1, coup d'envoi 21h pour ce match qui s'annonce prenant avec cette longue rivalité qui anime les Alsaciens et les Lorrains. Cyril de la Morinerie, vous êtes à la Méno, il y a déjà de l'ambiance hein, Cyril, chez
oh là
les supporters
là,
de Strasbourg.
Oh là là, il y a de l'ambiance, il y a de l'ambiance, il y a des centaines de supporters qui sont autour de moi, tous vêtus évidemment de bleu. Passage obligé par le stand saucisse. On est à Strasbourg, mais écoutez, ça crépite, ça fume.
Elles sont gourmand, succulentes. Gourmand que vous êtes, Cyril.
C'est saucisse.
On reconnaît bien.
Alors, à côté du barbecue, ces fans remplis des verres de bière alsacienne, bien sûr. Strasbourg, Metz, deux magnifiques villes, distantes de 160 km, séparées par les Vosges, deux clubs centenaires et rivaux, deux formations qui aiment attaquer avec des jeunes et quelques stars comme le Strasbourgeois Kevin Gamero. Bref, un vrai événement.
Il faut tout donner là, parce que c'est qu'une fois par an, c'est le meilleur match de l'année. Hein. C'est l'ambiance des deux équipes de l'Est, c'est plus festif et il y a plus d'enjeux, on a envie qu'ils gagnent aussi. Quoi.
C'est un PSGOM de l'Est?
Ah c'est mieux, c'est authentique, c'est régional, c'est l'Alsace, la Lorraine, voilà, c'est l'histoire.
Laurent, qui a une casquette avec une signote sur la tête, c'est à toi. Allez c'est parti. Voilà, il y a de l'ambiance.
Vous êtes bien entouré Cyril. Vous allez passer la soirée avec eux, c'est ça l'idée?
Là, 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 là. Oui, oui, je suis avec eux, bien sûr.
Oui.
Mais je serai en direct à 21h avec Lionel Rousseau, quand même. Tribune de prête pour vous commenter ce super derby. Il y aura des buts, il y aura des buts.
Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie, en direct de Strasbourg. Beaucoup d'ambiance, donc soirée spéciale sur Europe 1. Rendez-vous à partir de 20h avec Europe 1 Sport autour de Lionel Rousseau. Très belle entrée en mais matière, oui. J'en termine par là.
Il y avait encore une feuille, Alexandre.
Pour l'équipe de France féminine de football, équipe de France en phase de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Les Bleus qui se sont donc imposés 10-0, Pierre, face aux Grecs.
Merci Alexandre Lemaire. On passe à la météo, Valérie Dermont, du gris à l'ouest, du bleu à l'est.
Effectivement, et Strasbourg qui sera au soleil demain, toute la journée, contrairement à la façade ouest, parce qu'on a une perturbation qui arrive en ce moment par la Bretagne et qui arrose copieusement ce samedi matin les régions allant de la Basse-Normandie jusqu'au Massif central et sur les Pyrénées, donnant d'ailleurs de bons cumuls de pluie dans la partie sud. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans l'intérieur des terres, on a un régime de traîne qui s'établit sur le littoral, alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux. De bonnes averses sont particulièrement attendues sur la Bretagne. De la Haute-Normandie vers le bassin parisien jusque sur l'est du Massif central, le ciel qui s'ennuage au fil des heures. et il finira par tonner, mais seulement l'après-midi, quand la perturbation atteindra les régions centre. Pendant ce temps-là, sur la façade est, eh ben vous serez au soleil du matin au soir. Côté thermomètre, les maximales vont atteindre 18 à 23 degrés en général, 23 à 26 localement, jusqu'à 28 sur un bon quart sud-est.
Merci Valérie Darmon.